Bonjour à tous, en tout cas à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer en arrivant. Nous poursuivons donc ce matin cette série de prédications sur le livre de Jacques. La semaine dernière, si vous étiez là, nous avons vu que nous devons être vigilants sur notre accueil de l'autre. Les fruits de la foi que sont les actes du disciple témoignent véritablement de notre engagement à suivre notre maître. Jacques ne s'arrête pas là et poursuit cette idée du témoignage de la foi par les actes dans la suite de sa lettre. Le passage du jour, puisque nous étions au chapitre 2, est donc l'ensemble du chapitre 3, auquel on vient adjoindre aussi les 12 premiers versets du chapitre 4. Et parce qu'il est bon de lire la parole, on va la lire entièrement, tout ce passage, et pour ma part, je lirai dans la Bible. Traduction du Semeur. Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de fautes dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore au bateau. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? La langue aussi est un feu, c'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être tout entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source par la même ouverture ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la véritable sagesse. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel, elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous ? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu ? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, Il se fait l'ennemi de Dieu. Prenez-vous pour parole en l'air ce que déclare l'Écriture ? Dieu ne tolère aucun rival de l'Esprit qui a fait habiter en nous, mais bien plus grande est la grâce qu'il nous accorde. Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous donc de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez votre cœur, vous qui avez le cœur partagé. Prenez conscience de votre misère et soyez dans le deuil. Pleurez ! Que votre rire se change en pleurs et que votre gaieté en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Frères, ne vous critiquez pas les uns les autres. Celui qui critique son frère et qui se fait son juge critique la loi et la juge. Mais si tu juges la loi, tu n'es plus celui qui lui obéit, tu t'en fais le juge. Or, il n'y a qu'un seul législateur, un juge, celui qui peut sauver et faire périr. Mais pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ? Voici notre texte pour ce matin. Nous savons que Jacques a écrit cette lettre pour des chrétiens qui sont dispersés dans le bassin méditerranéen. Cette lettre vient donc apporter un enseignement contre certaines pratiques dont il a entendu parler. Éric l'a dit il y a 2 semaines, mais il est bon de le rappeler que la lettre de Jacques n'est pas une lettre à une église. En effet, cette lettre s'adresse à l'église dispersée, c'est-à-dire à ceux qui se reconnaissent comme chrétiens, là où ils sont, là où ils vivent leur foi. Pour autant, à ce moment-là, ces chrétiens se réunissent parmi leurs compatriotes juifs dans les synagogues. Autant sa lettre s'adresse à ceux qui se reconnaissent comme disciples de Christ, autant les querelles et disputes dont parle ce texte ne sont pas forcément des débats entre chrétiens. Pour finir cette mise en situation, gardons en tête que l'analogie avec nos vies actuelles peut être étendue à qui nous sommes, par exemple, dans notre milieu professionnel ou au supermarché en train de remplir notre caddie. Je ferme ici cette mise en situation. Regardons le texte. Le premier verset du chapitre 3 expose le problème. Et il dit « Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner. » Alors ici, ce n'est pas le fait d'enseigner qui pose problème. C'est le fait que les enseignants soient factuellement trop nombreux. Une lecture rapide de ce texte pourrait nous amener à penser que Jacques parle ici d'un problème local. Il ne correspond pas à la réalité de nos églises et nous pourrions le lire en diagonale pour arriver rapidement au verset 13 du chapitre 4 qui aborde une question très actuelle, la tentation de l'argent. Notre passage s'arrêtant au verset 12 du chapitre 4 pour parler pognon. Revenez la semaine prochaine. Comme nous sommes des gens sérieux, nous n'allons pas regarder ce chapitre 3 en diagonale. Pour comprendre ce texte, c'est un peu comme les passages à niveau. Vous savez, un train qui peut en cacher un autre. Et là, il faut voir le problème de fond derrière le problème local, derrière le problème de l'époque de l'auteur. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par observer ce texte et son contexte. Nous verrons quels sont les problèmes ciblés, concrets, que Jacques souhaite rectifier. À partir de là, nous mettrons en relief son enseignement pour voir les problèmes de fond, ceux qui sont intemporels, qui sont liés à la nature humaine. Le contexte du livre nous permettra d'amplifier le message de Jacques pour nous et d'admirer comment la bonne nouvelle de Christ est une fois de plus manifestée. Une fois que tout ça se serait bien posé, ce sera le moment d'être courageux et de ne pas en rester à une compréhension intellectuelle du texte. Jacques, lui, aborde trois problèmes concrets, actuels, pertinents, intemporels et que je crois valables pour chacun d'entre nous. Ces problèmes sont dompter ses paroles, la recherche de la sagesse humaine et l'égoïsme. Quels sont les problèmes de l'époque ? Les problèmes de ses frères en Christ dont Jacques souhaite discuter. Je l'ai dit, verset 1 du chapitre 3, « Ne soyez pas nombreux à enseigner ». Mais aussi, verset 13 à 15 du même chapitre, « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté ? Si votre cœur est plein d'amère jalousie, et un peu plus loin, une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. » Et finalement, verset 1 du chapitre 4, « Ne vous critiquez pas les uns les autres. » Si on dessine un cadre qui englobe toutes ces affirmations, nous avons ici la description de communautés où beaucoup, trop en tout cas, pensent être en droit d'enseigner, de juger, de critiquer les autres. Ces personnes, ces enseignants, justifient ce pouvoir, ce droit, parce qu'elles se croient sages, compétentes et intelligentes. En réalité, elles le sont par une sagesse toute humaine. De plus, leurs intentions, leurs actes sont bien moins honorables, car elles sont, selon les trois premiers versets du chapitre 4, égoïstes, insatisfaites, meurtrières, jalouses et querelleuses. Ça envoie. Jacques regrette, et c'est un euphémisme, que ses frères jugent en se croyant plus sages que leurs interlocuteurs. Il y a peut-être derrière ça une soif de pouvoir ou en tout cas une volonté d'être vu et reconnu. Mais je ne vais pas pousser plus loin dans la compréhension du problème de l'époque, dans qu'est-ce qu'il aurait pu se passer dans la tête de ces gens. D'une part, Jacques ne donne pas beaucoup de détails sur ça. Jacques ne se pose pas non plus lui-même en tant que juge des querelles dont il fait mention. Et d'autre part, la vérité qui nous importe ici, deux millénaires plus tard, c'est le fond du problème. C'est ce qui est laid dans la nature humaine. Nous l'avons lu. Sur les 12 premiers versets du passage, Jacques parle majoritairement de la langue. Les hommes qui se disputent sous couvert de sagesse et d'intelligence n'ont pas la maîtrise de leurs paroles. Il vient utiliser tout un tas de comparaisons pour montrer les dégâts que provoque la langue. La langue, en tant que métaphore de la parole, peut faire beaucoup de dégâts malgré sa petite taille. Alors, ici, vous n'êtes pas dupe. Ce sont bien les dégâts provoqués par les mots qui sont la cible de l'apôtre. Jacques met en garde sur le caractère indomptable de la parole. Et en ça, le verset 8 est très intéressant. L'auteur vient personnifier la langue. Alors, en tout cas dans ma version, peut-être moins dans la vôtre, je ne sais pas. Mais il vient personnifier la langue ainsi comme pour lui donner une volonté propre et indépendante de celle de l'homme. Au lieu de dire « aucun homme ne peut maîtriser sa langue », il renverse le sujet de la phrase en disant « mais la langue, aucun homme ne peut la dompter ». Cette figure de style amplifie cette idée que nous avons beaucoup de mal à maîtriser notre parole. Ceci est le premier élément du problème de fond. Je continue. Comme je vous crois perspicace, vous avez remarqué que le chapitre 4 suit le chapitre 3. L'auteur lui-même ne l'a pas chapitré, ça c'est arrivé. Bien après, lorsque des moines compistes ont fait la traduction. Je me suis perdu de nom, pardon. Ici, il ne faut pas y voir une séparation stricte, mais simplement un découpage choisi. L'argumentaire développé par Jacques dans les 12 premiers versets du chapitre 4 s'adresse ici vraiment au même destinataire et parle du même problème que dans le chapitre 3. Il n'y a pas deux problèmes distincts. On est sur la continuité. Quand il dit « D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous ?» Le « vous », ce sont les frères enseignants du chapitre 3, ceux-là même qui ne parvenaient pas à maîtriser leurs paroles, ceux qui se croient sages et expérimentés. Ceux qui sont jaloux et querelleurs. Ce que dénonce Jacques, c'est qu'en plus de ne pas avoir la maîtrise de leurs paroles, de leur langue, de leurs mots, ils l'utilisent à leur propre fin pour assouvir leurs désirs. Alors, le tableau que fait Jacques n'est pas tout à fait noir. Les mots sont durs, mais le tableau n'est pas tout à fait noir, et je pense que c'est là où ça peut nous parler. À la relecture attentive du passage, on ressent comme, je ne sais pas, un tiraillement chez ses frères en Christ. Jacques parle de ces personnes comme des frères qui font les deux à la fois, utiliser leurs paroles pour des bénédictions et pour des malédictions. Il est décrit, verset 8 du chapitre 4, comme ayant le cœur partagé. Ce serait une erreur, ce serait trop simple pour nous de dire « Ils avaient tout faux à cette époque-là, nous maintenant on n'est pas comme ça et donc on fait les choses bien. » Nous sommes tous pécheurs. Qui parmi nous peut dire « Moi, je maîtrise complètement ma parole, jamais un mot méchant, jamais un mot de jugement. » Jamais un mot déplacé, jamais un mot égoïste. Nickel, parfait. Et Paul le dit aussi, dans la lettre il adresse à l'église de Rome, et je lis chapitre 7 à partir du verset 15. Passage que vous connaissez peut-être, en tout cas vous avez peut-être déjà entendu. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. C'est du Paul, hein. Voilà. Nous sommes tous conscients de cette ne sommes-nous pas nous-mêmes conscients de cette réalité, de cette situation dans nos vies? Car je ne fais pas le bien que je veux et le mal. Et je fais le mal que je ne veux pas. L'apôtre Paul admet pour lui cette situation qui est à peine avouable, mais que nous vivons tous. Il y a une dualité, un combat intérieur où le péché qui est tapis en nous s'entremêle avec notre souhait d'être et d'agir conformément aux valeurs de Dieu. Le fil rouge du livre de Jacques pointe cela du doigt. L'auteur dit et redit de différentes manières. Alors, la semaine passée sur l'accueil de l'autre, la semaine prochaine sur la tentation des richesses, qu'une foi vivante porte de bons fruits. Nous savons comment agir selon la manière de Dieu. Nous avons envie d'être des chrétiens qui font le bien autour d'eux, mais le péché qui est tapis en nous, qui vit en nous, nous pousse à faire les choses mal. Dans notre passage, Jacques reprend cette même idée et l'attaque sur le thème de la parole. Pour lui, la personne qui possède la sagesse qui vient de Dieu porte de bons fruits par sa parole auprès de ses frères. Dier, tu peux me passer la diapo, s'il te plaît. Merci. C'est bon, merci. La clé de tout ça. Le message central du texte de ce jour est qu'il est possible de résister aux tentations de faire le mal par nos paroles. Car Dieu nous donne la sagesse. Et oui, la bonne nouvelle de Christ, c'est que le Seigneur nous propose sa sagesse. Il y a deux versets en plein milieu de notre texte qu'il ne faut pas rater. Sinon, le texte, il est vraiment, vraiment lourd. Mais avec ces deux versets, c'est ouf. Le verset 17 et 18 du chapitre 3. La sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Nos prises de parole ne devraient pas être motivées par un « moi je sais » ou « moi je pense que » mais plutôt par un « moi je vais commencer par me taire » pour écouter l'autre. Et puis après ça, si je parle, je vais rechercher la paix et l'encouragement par mes mots. Quand nous aurons des doutes d'être capables de faire ça, relisons le verset 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Si j'avais des enfants devant moi, mais ils sont partis, mais si j'avais des enfants devant moi, je leur dirais « Ayons une parole pour donner des bisous et pas pour lancer des cailloux. » On est tous des grands enfants. Hein. Voilà. Nous sommes arrivés au moment où nous avons pu comprendre ce texte et en tirer l'essence de celui-ci. Le message central que je viens de donner est un beau challenge en soi. Ne restons pas sur une compréhension intellectuelle de ce texte. Et comme Pierre le fait dans ce texte avec ses lecteurs, mettons des mots qui parlent de ce que nous vivons au quotidien. Sur le thème de la parole et de son usage, Jacques aborde trois problèmes concrets. Dompter ses paroles, agir selon la sagesse humaine et l'égoïsme. La force de ce texte, c'est de faire le lien entre ces trois problèmes. Le cœur de l'homme n'est pas bon, il est égoïste, il met ses désirs au-dessus du bien qu'il pourrait faire à la place. Pour arriver à ses fins, il va utiliser la parole et va provoquer querelles et disputes. Le souci, c'est que cette parole est impossible à maîtriser et pourtant les dégâts qu'elle peut causer sont réels. Alors, que fait l'homme ? Que fait l'homme quand il doit prendre la parole et construire un discours qui tient la route malgré tout ? Il prend ce qu'il a sous la main, c'est-à-dire sa prétendue sagesse et son expérience. Et c'est là où les versets 15 et 16 sont durs. Une telle sagesse est de ce monde, de livrer à ses seules ressources, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au moment où j'écris ces lignes que je suis en train de prêcher devant vous, donc il y a quelques jours de ça, j'étais assis à mon bureau et j'en menais pas large. Le conflit qui a été vécu dans cette communauté il y a quelques mois, c'est moche. C'est vraiment moche. N'avons-nous pas usé de notre sagesse au lieu de rechercher celle qui vient de Dieu ? Nos paroles étaient-elles des paroles de paix, des paroles de bonté? Les fruits sont là. Un conflit qui est devenu division. Mais il y a une bonne nouvelle pourtant. Le Seigneur est là et il relève son Église. Chapitre 4, verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous le relèvera. Jacques ne dit pas à ses frères, laissez tomber, le mal qui a été fait est trop grand. Mais soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je vois dans cette épreuve vécue ensemble que nous avons vu les dégâts provoqués par des paroles basées sur la sagesse humaine. Si cette Église a le souhait de témoigner intentionnellement de l'Évangile en produisant des fruits de paix, cette épreuve, bien que très très lourde en conséquence, nous enseigne sur les dommages que nous pouvons faire simplement par des mots. J'ai parlé de l'attitude collective de l'Église. Individuellement, il en est de même. Pensons à là où nous sommes au quotidien. Si nous souhaitons avoir une foi qui se voit, une foi qui fait la différence, nous pouvons apporter du bon, des fruits de paix, avec des paroles basées sur la sagesse qui vient de Dieu. Que ce soit dans la société, avec nos collègues, près de nos amis, de nos proches. Nous, comme les autres, nous faisons le mal par des mots, M-O-T-S. À la place de faire des critiques, d'envoyer des pics, d'user une moquerie, d'écrire quelques mails qui ne sont pas franchement sympas, ou de faire parfois des blagues douteuses, nous avons un potentiel énorme pour nous démarquer, pour ne pas faire comme tout le monde, pour être positivement remarqué. Alors le défi pour nous, il est là. Demander la sagesse de Dieu avant de parler ou avant d'appuyer sur le bouton « Envoyer ». L'adage dit qu'il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Combien de tours faut-il pour croire que Dieu peut nous donner des paroles plus utiles que celles que nous avons au bout de la langue ou au bout des doigts? C'est là où la foi et les œuvres se rencontrent. Il n'est pas si simple d'avoir cette foi que le Seigneur va donner une parole sage, va donner une parole qui cherche la paix, une parole qui fait du bien à lire ou à entendre. Quand on nous dit « Hé, je crois en toi parce que tu es compétent », et à ce moment-là, c'est compliqué de mettre son ego au vestiaire et dire « Moi, je crois surtout en Dieu ». Le thème de cette série de prédications sur le livre de Jacques est « Croyant et pratiquant ». Les deux. Avec quoi allons-nous repartir pour cette nouvelle semaine dans l'Église dispersée? Avons-nous à cœur d'avoir un témoignage intentionnel? Est-ce que notre prochaine réponse commencera par « Moi, je sais » ou par « Moi, j'écoute et j'encourage » ? Et quand l'inéductable prochaine fois où notre parole nous échappera, parce que ça arrivera, aurons-nous quand même le courage d'aller devant Dieu pour rechercher sa sagesse? Le Seigneur est bon avec nous. Il relève, il restaure. Notre foi dans ses vérités n'en sera que plus belle si nos actes sont le témoignage de celle-ci. Que le Seigneur nous aide à concrètement mettre en pratique notre foi et que son nom soit loué quand nous témoignerons un message de paix par nos paroles. Amen.